Le journal Estelle Herman, bonsoir.
Bonsoir Léo, bonsoir à toutes et à tous. Plus de peur que de mal à Orvin. L'eau peut à nouveau être consommée. La commune recommande toutefois de prendre encore quelques dispositions, vous l'entendrez. L'écologie s'apprend dès le plus jeune âge. Les animateurs du parc Chasseral ont accueilli une trentaine d'élèves à Mont-Soleil ce matin, dans le but de les sensibiliser aux énergies renouvelables. La réalité virtuelle n'est pas destinée uniquement au divertissement. Elle peut devenir un outil pédagogique. La HEP Béjune vient d'ouvrir un test lab consacré à ces technologies sur son site de La Chaux-de-Fonds. Et la météo de demain nous prévoit du brouillard en matinée aux alentours de 1000 mètres. Le soleil devrait être de retour dans l'après-midi. Les températures seront douces en journée, jusqu'à 21 degrés au bord du lac et 17 degrés sur les crêtes. L'eau est de nouveau potable à Orvin. Les autorités l'ont indiqué ce matin, les conduites d'eau ont subi un important traitement au chlore depuis mardi pour éliminer les bactéries fécales. Le réseau a été complètement purgé, mais avant de boire l'eau de votre robinet, quelques dispositions restent à prendre. De quoi s'agit-il, Colline Grasset?
La commune recommande d'abord de bien purger toutes les conduites de la maison, l'eau chaude et l'eau froide. C'est une mesure importante pour éviter de recontaminer le réseau. Les autorités demandent aussi d'augmenter la température du chauffe-eau à 60 degrés minimum pendant 24 heures ou bien de le vider et le remplir à nouveau. Les filtres ou les appareils de traitement d'eau potable doivent aussi être bien entretenus, voire être remplacés si besoin. L'eau peut encore avoir un léger goût de chlore après toutes ces mesures. C'est normal, rassure la commune, et ce n'est pas dangereux pour la santé.
Merci Colline. Et toujours en lien avec cette contamination du réseau, la BLZ peut enfin souffler. La brasserie avait gros à perdre. Ses bières sont composées à 90% de cette ressource. La production de la brasserie BLZ a ainsi pu reprendre. Elle était à l'arrêt depuis l'annonce de contamination mardi soir. Avant de revenir à la normale, un protocole préventif est mis en place. Les explications d'Arthur Balz, cofondateur et producteur de la brasserie BLZ.
Nous, par précaution, on va encore envoyer en laboratoire des analyses de nos lots en cours, mais vraisemblablement, d'après nos process, il n'y a aucun risque, mais voilà, c'est par précaution. Et puis, pour la suite, ça ne change pas grand-chose. On a un protocole qu'on a mis en place donc dans ce genre de cas. Donc, ça fait partie des risques, forcément, pour une entreprise comme la nôtre. Et puis, on va garder ce protocole en place qui a très bien fonctionné pour cette fois.
Par ailleurs, d'après les autorités d'Orvin, la contamination était si faible que cela ne vaut pas la peine de chercher la cause de la pollution. Des contrôles plus réguliers seront toutefois effectués dans les prochains jours et semaines. Gros coup de chaud cet après-midi chez Prue Cycling à Reconvilliers. Un départ de feu a eu lieu peu avant 15h au sein de l'entreprise de recyclage. Olivier Zano, vous étiez sur place. L'incendie a été très vite maîtrisé.
Oui, on le doit à la réactivité des employés. Le feu est parti d'un tas de ferraille pendant qu'un ouvrier le manipulait depuis une machine avec un grappin. On m'a parlé de flammes qui ont très vite pris de l'ampleur, mais l'équipe est intervenue tout de suite avec des extincteurs, avec des cubidos. Tout ça le temps que les pompiers arrivent en force, des sapeurs-pompiers de la Birse, de Tramelan et de Bienne. Tout a été rapidement sécurisé et c'est tant mieux. On le rappelle, ce centre de recyclage avait déjà connu des incendies, parfois dévastateurs, en 2013 notamment, sous l'enseigne VoxDI et puis sous l'enseigne Fischer Recycling également. Plus de peur que de mal donc, une ambulance a tout de même été dépêchée sur les lieux. Tous les employés ont pu bénéficier d'un contrôle puisqu'ils ont inhalé des fumées nocives. Mais la police nous a confirmé que personne n'a été blessé.
Merci Olivier. La police qui a d'ailleurs ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ce départ de feu. Notez que la rue du Moulin à Reconvilliers a été fermée à la circulation le temps de l'intervention. Les enfants peuvent aussi devenir des acteurs du développement durable à leur échelle. La preuve ce matin à Mont-Soleil, les animateurs du parc Chasseral ont accueilli une trentaine d'élèves pour les sensibiliser aux énergies renouvelables. Ils ont suivi plusieurs ateliers organisés dans le cadre du projet Région Énergie. Encerclés par les enfants de la classe de 7H de Villeray, David Vieille donne les consignes. Il est chargé de projet et responsable Région Énergie chez Jura-Bernois.bienne.
Alors, pour chaque groupe, vous avez un petit sachet. Dedans, il y a des photos et des petits échantillons. Là. Dans chaque groupe, vous devez nommer ce que c'est. Des copeaux de bois, vous avez des éoliennes, vous avez plein de choses. Et puis, vous devez les mettre dans quel ordre l'homme a commencé à utiliser ces éléments-là pour faire de l'énergie. Ça vous va?
C'est quoi ?
Du gilet.
Pétrole.
Et du bois.
Ouais, c'est du bois.
Ça, c'est du charbon.
Ça, c'est charbon. Ça.
Ces jeunes, dans quelques années, c'est eux qui vont voter, ceux qui seront les décideurs de demain, les citoyens de demain. Et puis, bah, il faut les armer le plus tôt possible aussi pour qu'ils saisissent ces enjeux-là. Quoi. Comprendre voilà, qu'est-ce que c'est une éolienne, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on a dans notre prise quand on éclaire nos chambres. Et puis, c'est ça qui est important, les former à cette notion de l'énergie.
Charbon, c'est vers le premier, je pense. Bois aussi. Pétrole, c'est plus tard.
Vous trouvez difficile cet exercice ?
Oui, un peu.
Qu'est-ce que vous avez appris ce matin ?
On a appris l'énergie avec l'électricité des barrières. Un mini peu avec les éoliennes, mais ça, ce sera plutôt cet après-midi, je crois. Et je crois que cet après-midi, on va aussi aller voir les panneaux solaires qui sont à côté, là.
C'est quelque chose que vous trouvez important ?
Oui.
C'est quelque chose qui vous inquiète, parfois ?
Des fois.
C'est quoi qui vous inquiète le plus ?
Le futur. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les bombes nucléaires... Ça pourrait être dangereux.
Il y a pas mal d'élèves aussi qui sont vite aussi angoissés par ces questions climatiques, énergétiques. Et puis le but, c'est aussi qu'on leur montre que, en fait, il y a des solutions. Et puis, il faut économiser l'énergie. Il faut utiliser des énergies renouvelables. Mais en fait, on peut agir localement. On peut agir dans sa famille, dans sa salle de classe. Comment on va à l'école ? Est-ce qu'on y va en vélo ou en voiture ou à pied ? Donc, il faut qu'ils aient des outils pour agir à leur échelle. Ouais.
Cela fait un an que le Grand Chasseral fait partie du projet Région Énergie. Une occasion pour les communes du Jura bernois de collaborer à divers projets en lien avec l'énergie. Quel bilan vous tirez une année après ?
Alors, on est parti un peu ambitieux avec ce projet. On a 3 projets pour 39 communes, donc même l'Offen, ils n'avaient jamais eu ça jusqu'à maintenant. Il y a une partie des communes qui n'ont pas voulu participer, une partie des communes qui ont accepté de faire une étude des bâtiments pour la production d'énergie solaire, donc voir leur potentiel de production d'énergie solaire. Et puis, il y a d'autres communes qui vont faire un CECB de leur école, c'est-à-dire analyser en gros les bâtiments scolaires. Et le but, c'est aussi de faire un lien aussi avec ce qui se passe dans les écoles, dans les classes, avec ces animations avec les enfants. Et de voir aussi au niveau du bâtiment qui peut prendre sa place, est-ce que le concierge peut peut-être optimiser certaines choses, est-ce que le conseil municipal pourrait investir dans le bâtiment. Donc on essaie aussi de faire cette cartographie de l'énergie dans l'école.
Moi, le moment que j'ai le plus préféré dans cette matinée, c'est quand on est allé au 10h vers l'éolienne.
Moi, c'était vers les éoliennes aussi. Je ne pensais pas que c'était autant grand.
David Villay et les enfants de la classe de 7H de Villeray répondaient au micro de Céline Roduit. Expérimenter le monde numérique pour développer ses compétences en la matière, c'est ce que proposent les Test Labs de la HEP Béjune. Le deuxième de ces laboratoires a été inauguré hier sur le site Chaudefonnier de la Haute École Pédagogique. Il est consacré à la réalité virtuelle. Le personnel académique, les étudiants et les enseignants de terrain ont notamment à leur disposition des casques de réalité virtuelle et une caméra qui filme à 360 degrés. Des outils qui ne servent pas uniquement à se divertir. Sophie Golégas, coordinatrice des Test Labs pour la HEP Béjune.
Je pense qu'au-delà de l'effet waouh, je trouve important de le montrer, cet effet waouh. Parce que c'est quand même assez incroyable tout d'un coup de mettre un casque puis d'être dans un vrai univers, quoi. On se fait vraiment bluffer. Mais il y a vraiment des applications qui permettent d'apprendre et puis d'enseigner. Une étude a montré que quand on mettait les personnes sous casque, par exemple, quand on leur faisait vivre une expérience réalité virtuelle, l'apprentissage était plus profond, plus facile. Et puis ça permet aussi de se mettre à la place de personnes, par exemple. Il y a une application qui permet de se mettre dans la peau d'une personne malvoyante. Et puis, on est dans sa réalité, dans sa perception, puis ça développe l'empathie. Il y a aussi d'autres applications qui permettent de voir l'espace, le très très grand ou l'infiniment petit. Donc il y a des choses, ça nous permet de visualiser des choses qu'on ne verrait pas autrement.
Un premier test lab centré sur les outils numériques a ouvert ses portes à Delémont en 2022. Un troisième autour de l'intelligence artificielle devrait voir le jour avant l'été 2025 à Bienne. Les moyens mis à disposition de l'armée par la Confédération vont augmenter de 21,7 à 29,8 milliards de francs pour les 4 prochaines années. Après le Conseil des États en juin, la majorité bourgeoise du Conseil national a augmenté aujourd'hui de 4 milliards l'enveloppe proposée par le Conseil fédéral, qui avait déjà relevé le crédit quadriennal de 4 milliards. C'est nécessaire, selon la conseillère nationale libérale radicale vaudoise, Jacqueline de Quattro.
Je suis contente que nous ayons réussi à augmenter le budget de l'armée pour faire face à la situation géopolitique qui se dégrade, avec une compensation qui est à la fois composée d'économies, c'est-à-dire une recherche d'efficience dans les différents départements. En fait, un effort qui est partagé. Et c'est juste, nous avons mis après la chute du mur de Berlin la priorité ailleurs que sur l'efficacité, les effectifs et les moyens de l'armée. Ça se justifiait. Maintenant, il faut retrouver d'autres équilibres avec, ma foi, des priorisations qui peuvent être douloureuses. C'est pour ça que l'effort doit être réparti de manière équitable.
Pour financer le crédit augmenté, la majorité bourgeoise du Conseil national va raboter les moyens affectés à la coopération internationale, exiger aussi une réduction de l'enveloppe salariale de la Confédération et réduire la part des cantons à l'impôt fédéral direct. Le Parlement entend donc redonner à l'armée suisse un standing qu'elle avait perdu ces dernières années, une hérésie pour le socialiste jurassien Pierre-Alain Fridet.
J'aimerais qu'ils expliquent à M. Poutine comment il peut venir nous attaquer pour justifier le fait d'avoir dépensé tant d'argent. Et ce n'est que le début. Donc ce qui est prévu, c'est 170 milliards d'investissements militaires jusqu'en 2045. C'est quelque chose de totalement irréaliste. Donc si M. Poutine veut venir chez nous, il doit résoudre ces énormes problèmes de démographie. C'est 40% de moins de naissances que par le passé. Il doit résoudre le problème d'une distance incroyable. Il doit déjà battre l'Ukraine, c'est compliqué. Il doit battre l'OTAN, résoudre les problèmes de dissuasion nucléaire. Tout ça, c'est la réalité. Se surarmer pour une guerre hypothétique avec une invasion de la Suisse, ça, c'est totalement hors de propos.
Les très longs débats au Conseil national ont surtout porté sur la manière de financer la hausse du crédit militaire avec deux écoles, des coupes dans d'autres domaines ou la création d'un fonds spécial. C'est finalement la première solution qui a passé la rampe. La deuxième était préconisée par le centre qui a finalement changé d'avis. Les explications du sénateur centriste au Parlement fédéral, le Valaisan Philippe Mathias Brégui.
La gauche, les socialistes et les verts ne sont pas prêts de soutenir ça. Il a soutenu l'idée en commission, mais il a refusé l'arrêt complet. Et avec ça, on n'a aucune chance d'augmenter les finances pour l'armée. Et ça, c'est l'absolue priorité pour nous, d'augmenter les finances pour l'armée. Et avec ça, on a décidé de trouver le chemin qui est possible. Et ça, c'était le chemin sur la base de l'idée de la commission de finances.
Cette gauche vous a pourtant dit à la tribune qu'elle soutiendrait cette idée de crédit, comme vous le dites.
Ça, c'est un peu pour la galerie. Ce n'était pas la possibilité dans cette situation géopolitique de risquer qu'on n'a pas augmenté les montants pour l'armée.
Un dossier préparé à Berne par Serge Jubin. Le Conseil des États devra éliminer quelques divergences de détails.
18h12 sur RJB.
Sport. Jonas Omlin est à nouveau blessé. Le gardien de l'équipe de Suisse de football s'est blessé au tendon d'une jambe lors d'un entraînement avec son club du Borussia Mönchengladbach. Son indisponibilité n'a pas été précisée. Le portier helvétique avait déjà manqué plusieurs matchs la saison passée à cause d'une blessure à une épaule. Sébastien Buemi courra encore pour le team Envision Racing la saison prochaine en Formule E. Le pilote suisse entamera ainsi une 11e saison en Formule électrique. Il compte 13 victoires en Formule E et un titre de champion. Son dernier succès dans la discipline remonte à juillet 2019. Et pour finir, la coureuse cycliste Élise Chabé changera d'équipe la saison prochaine. La Genevoise de 31 ans s'est engagée pour 2 ans avec la formation française FDJ Suez. Élise Chabé reste sur une saison 2024 assez difficile, avec des chutes et des abandons au Tour d'Italie et au Tour de France. La Genevoise espère avoir plus de réussite aux prochains mondiaux de Zurich. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition. Une très belle soirée à vous.